On commence par le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Des enfants étrangers à gare qui refusent de s'alimenter dans des centres de rétention, la scène décrite par des associations qui viennent en aide aux migrants ne se déroule pas aux États-Unis mais en France, l'État membre de l'Union européenne qui enferme le plus, selon France Terre d'Asile et la CIMAD notamment, des associations qui signent un rapport alarmant alors que le projet de loi Asile et Immigration est de nouveau examiné aujourd'hui au Parlement.
Dans votre journal également, une nuit d'émeutes urbaines à Nantes après la mort d'un jeune homme de 22 ans tué par un CRS lors d'un contrôle routier. La maire socialiste de la ville appelle au calme.
À la une également, un plan de sauvetage pour une biodiversité en perdition détaillé aujourd'hui par le ministre Nicolas Hulot et par Édouard Philippe à Paris. Les rapports à venir entre le gouvernement et Geoffroy Roux de Bézieux, l'entrepreneur qui a fait fortune dans la téléphonie, a été élu hier à la tête du MEDEF.
Un retour dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui avec notre invité, l'historien Michel Vinocq. Il sera avec nous à partir de 7h40. Avec lui, nous parlerons de la République aujourd'hui, d'Emmanuel Macron, mais aussi de l'Europe.
La loi Asile et Immigration arrive aujourd'hui en commission mixte paritaire au Parlement pour tenter de mettre d'accord sénateurs et députés autour d'un texte commun. Un travail législatif au lendemain d'une alerte lancée par 6 associations qui accompagnent des migrants et qui dénoncent l'enfermement massif des étrangers en centre de rétention par les autorités françaises. 46 800 personnes ont été placées donc en rétention l'an dernier en France métropolitaine, un chiffre en hausse de 17% par rapport à 2016. Ce qui fait de la France l'État membre de l'Union européenne qui enferme le plus, selon ces associations. Le tout pour une efficacité limitée, toujours selon ces associations, dont la CIMAD et France Terre d'Asile, l'Ordre de Malte également. D'après elle, le projet de loi Asile et Immigration ne va pas permettre d'améliorer l'efficacité de la politique migratoire en France, Clotilde Ravel.
Les associations le martèlent, il faut changer de cap en matière de politique migratoire. La mobilisation continue contre le texte de loi Asile et Immigration, un texte qui ne prévoit pas d'interdire la rétention des enfants mineurs. C'est pourtant une urgence, selon David Rohi, membre de l'association de soutien aux migrants, la CIMAD.
Les enfants qu'on rencontre dans les centres de rétention, on voit des enfants qui sont prostrés, on voit des enfants qui pleurent. Certains qui n'arrivent plus à s'alimenter, des mamans qui n'arrivent plus à allaiter avec le choc que représente la rétention, des enfants qui ont des poussées brutales d'eczéma, des enfants qui nous disent « mais pourquoi je suis là, je ne suis pas méchant ». Imaginons-nous un jour être enfermés en tant que parents avec nos enfants dans les centres dans un lieu de privation de liberté. C'est évidemment terrible et très très délétère sur le plan psychologique pour les enfants comme pour les parents.
Autre mesure particulièrement critiquée, l'augmentation de la durée maximale de rétention administrative qui passe de 45 à 90 jours. Objectif du gouvernement, une politique d'éloignement plus efficace. Effet d'annonce selon les associations.
On sait que c'est une mesure totalement inefficace. En 2011, on est déjà passé de 32 à 45 jours. Ça n'a pas donné plus d'expulsions. Au contraire, le nombre d'expulsions a baissé. Et on sait, à contrario, que plus la rétention dure, plus elle est traumatisante, anxiogène. Donc on estime que c'est une très très mauvaise mesure qui va coûter cher, qui va générer des dégâts humains pour aucun résultat sur le plan des expulsions.
Le placement en centre de rétention concerne plus de 40 000 personnes en France. La France, championne d'Europe de l'enfermement selon les associations. De son côté, l'Espagne accueille environ 8 000 personnes par an et l'Allemagne 2 000.
En Allemagne, justement, les sociaux-démocrates disent avoir besoin de temps, d'un délai de réflexion supplémentaire pour examiner l'accord conclu avant-hier avec leurs partenaires conservateurs de la coalition gouvernementale. La CDU et la CSU, qui étaient en conflit depuis des semaines, ont finalement prévu de renvoyer les demandeurs d'asile déjà enregistrés ailleurs dans l'UE vers ce premier pays d'arrivée, ou bien à défaut de refouler les étrangers vers l'Autriche voisine dans le cadre d'un accord bilatéral. Mais l'Autriche, gouvernée par l'extrême droite et les conservateurs, a expliqué hier qu'elle ne signerait aucun accord qui se ferait à son détriment. Vienne menace de prendre des mesures à son tour pour protéger ses frontières, notamment avec l'Italie et la Slovénie. Risque de fermetures en cascade, d'effets domino en Europe. Objectif zéro artificialisation des sols. Plus question de construire des centres commerciaux, des routes ou des lotissements sur des zones naturelles ou agricoles sans compenser, sans créer de nouveaux espaces naturels. C'est ce qu'explique ce matin Nicolas Hulot dans un entretien appartient aux Parisiens. Le ministre de la Transition écologique doit détailler cet après-midi son plan pour la biodiversité. Il veut en finir d'ici à 2025 avec les rejets de plastique dans l'océan, ce qui inclut la suppression progressive de 12 produits en plastique, comme les pailles, souvent retrouvées sur les plages et en mer.
7h05 sur France Culture, la suite de votre journal, Catherine Dutu. La maire socialiste de Nantes, Johanna Roland, appelle au calme ce matin après une nuit émaillée de violence dans 3 quartiers de la ville.
Des scènes d'émeutes dans le quartier du Breil, notamment à Nantes, affrontements entre des jeunes et des policiers, des voitures et un centre commercial incendié après la mort d'un jeune homme de 22 ans suite à un contrôle policier, Antoine Dénécher.
Oui, tout part d'un contrôle effectué par des CRS rue des Plantes, quartier du Breil, vers 20h30. Selon la police, les fonctionnaires demandent alors au conducteur de descendre de son véhicule pour les suivre jusqu'au commissariat. Le chauffeur fait alors marche arrière et percute un CRS à hauteur du genou. Aussitôt, un de ses collègues utilise son arme et tire sur l'automobiliste. Quand ce jeune de 22 ans décède vers 23h au CHU de Nantes, les violences urbaines ont déjà commencé depuis un moment. Jet de cocktail Molotov sur des policiers, une centaine au total mobilisés sur le quartier, incendie de poubelles, de voitures et puis d'une partie du centre commercial du Breil, qui jouxte un centre médical. Pendant que les pompiers interviennent, certains jeunes crient leur colère. Ils disent vouloir se venger. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ça va péter pendant des jours et des semaines, lance l'un d'eux. Mais beaucoup d'habitants restent calmes. Ils se disent toutefois révoltés par le décès de ce jeune. Le procureur présent sur place ouvre aussitôt une enquête pour déterminer les causes de ce décès. Enquête confiée à la police judiciaire de Nantes. La police des polices de Rennes est également saisie.
Antoine Dénécher de France Bleu Loire-Océan. Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a félicité hier Geoffroy Roux de Bézieux pour son élection à la tête du MEDEF, assurant que leur première rencontre porterait sur la loi Pacte et la gouvernance de l'entreprise. Geoffroy Roux de Bézieux veut moderniser, lui, la première organisation patronale de France dans les 5 années à venir. Cet entrepreneur qui a fait fortune dans la téléphonie veut apporter une dimension numérique aux propositions du patronat. Mais comment se positionner plus largement face à un gouvernement pro-entreprise qui s'interroge aussi parfois sur le rôle des partenaires sociaux? Équation plutôt compliquée, Frédéric Seyss.
Il y a eu le couple frontal Pierre Gattaz-François Hollande, il y a eu le couple tumultueux Laurence Parisot-Nicolas Sarkozy. À quoi s'attendre avec le couple Geoffroy Roux de Bézieux-Emmanuel Macron? En apparence, les planètes sont plutôt alignées. Tous deux se connaissent depuis leur participation commune à la commission Attali. Tous deux ont abondamment échangé pendant le quinquennat Hollande, quand l'un était vice-président du MEDEF, l'autre secrétaire général adjoint de l'Élysée chargé des questions économiques. Il y a par ailleurs une appétence commune pour les sujets qui touchent à la transformation numérique de l'économie. Pour autant, la lune de miel n'est pas certaine. L'entourage de Bruno Le Maire anticipe un patronat combatif, justement du fait de cette proximité idéologique. Si le MEDEF veut continuer à exister, il ne peut pas s'aligner et il va donc devoir trouver de nouveaux combats, explique-t-on à Bercy. Autrement dit, hausser le ton pour affirmer son utilité. Cela au moment où le patronat a obtenu gain de cause sur la baisse de l'impôt sur les sociétés, comme sur le lissage des seuils sociaux. Cela va être très difficile de trouver la bonne distance, confirme Thibault Lanxad, vice-président sortant du MEDEF. Avec Hollande, c'était facile, il ne connaissait pas l'entreprise, poursuit-il. Cette fois-ci, c'est plus compliqué. Il faudra trouver le bon curseur, ni exaltation, ni compromission. Les dossiers ne vont pas manquer, c'est vrai, pour affiner ce réglage du curseur. Réforme de l'assurance chômage, refonte du régime général des retraites, retraite complémentaire, alors même que l'exécutif n'a pas caché jusqu'ici sa tentation de contourner les corps intermédiaires.
Direction la Tunisie à présent, où la capitale Tunis va être dirigée pour la première fois par une femme islamiste. Son nom, Souad Abderrahim, tête de liste du parti Ennahda. Elle n'est pas voilée, elle ne ressemble en rien aux membres classiques du parti. À 53 ans, cette gérante d'une entreprise pharmaceutique va donc désormais diriger Tunis. Inquiétude de l'opposition laïque, reportage de Maureen Mercier, notre correspondante à Tunis.
Dans l'hémicycle, il y a la joie des membres de Ennahda. Le parti islamiste a réussi son pari, faire élire la première femme à la tête de Tunis de l'histoire du pays. Et puis il y a les larmes des députés de l'opposition, dont celle de Raja Gmir, du parti Massar.
C'est le programme islamiste qui va être appliqué. Il ne faut pas se fier aux apparences, pas parce qu'elle ne porte pas le voile. J'ai peur pour la capitale. J'ai peur de voir pulluler des écoles coraniques, des écoles islamistes, des crèches coraniques. J'ai peur pour l'éducation, j'ai peur pour la culture.
Inquiétude pour la capitale, mais pas seulement. Ennahda a beau marteler qu'il dissocie le religieux du politique, pour ses adversaires, tout ceci n'est que pure stratégie calquée sur le modèle turc d'Erdogan. Fawzi Sharfi, de la gauche tunisienne.
Nous sommes en train de donner l'idée que Ennahda est un parti qui a rompu avec l'idéologie islamiste des frères musulmans, ce qui est absolument faux. faux, ça reste un projet réactionnaire, religieux. Le modèle de Nasr, c'est le modèle Erdogan qui donne une prospérité économique, mais que nous savons ce qu'Erdogan fait des droits, fait des libertés.
À Sfax, deuxième ville du pays et poumon économique, un proche des Narda a également été élu maire il y a quelques jours.
40 000 Syriens sont massés actuellement près de la frontière avec la Jordanie, poussés de chez eux par les combats dans la province de Deraa, au sud-ouest de la Syrie. L'ONU exhorte la Jordanie à ouvrir ses frontières à tous ces demandeurs d'asile syriens. Nous ferons le point sur la situation dans le journal de 7h30. Le temps de ce mercredi 4 juillet, ensoleillé sur une grande partie du pays, plus orageux cet après-midi de l'Aquitaine au Nord-Pas-de-Calais. 19 départements du sud-ouest sont d'ailleurs placés en vigilance orange à cause des orages. Les températures sont comprises ce matin entre 15 et 19 degrés en général, jusqu'à 22 près de la Méditerranée. Cet après-midi, comptez de 21 à 26 près de la Manche et sur la façade atlantique, 27 à 33 partout ailleurs du nord au sud. Olivia Gesbert.
Merci Catherine Dutu.